إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Par la grâce d'Allah تبارك وتعالى, nous nous réunissons aujourd'hui pour parler d'un sujet important qui renvoie à un des fondements de l'islam, qui est l'attestation Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah. Qu'est-ce que cela signifie? À quoi renvoie cette parole? Quelles sont ses implications? Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de croire aux prophètes et aux envoyés du fait qu'il les a choisis. Lui tabaraka wa ta'ala, il leur a révélé sa religion, il leur a ordonné de transmettre le message appuyé par des preuves et des miracles. Ces messagers furent des hommes qui mangeaient, buvaient, se rappelaient, oubliaient, vivaient et mouraient. Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, pour nous rappeler cette nature, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. À Sourate 25, le verset numéro 20. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Je reviendrai sur ce point, car il est très important, sur le fait de reconnaître la nature humaine des envoyés et des prophètes. Seulement, ils étaient les meilleurs des créatures, les plus parfaites, ceux au comportement le plus abouti, à la fois la plus complète. Et ils se démarquèrent des autres êtres humains par la révélation, par la foi, par leur moralité, par leur religiosité, par leur détachement de ce bas monde et par d'autres considérations de ce type. La foi du croyant ne saurait être valide s'il venait à renier un seul de ces messagers. Leur fonction première est de transmettre le message, d'exhorter les gens, de les appeler à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et à son obéissance, d'ordonner le convenable et de réprouver le blâmable. À cet effet, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulayman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qablu wa rusulan lam naqsusuhum 'alayk wa kallama Allah Musa taklima rusulan mubashshirin wa munzirin li an la yakuna lin nas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Sourate numéro 25, le verset numéro 20. Nous t'avons fait une révélation, c'est-à-dire, ô toi Mohammed, comme nous fîmes à Nour et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Ya'qub, ainsi qu'aux tribus, à Isa, à Ayyub, à Haroun ou à Suleyman. Et nous avons donné le Zabour à Daoud. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et d'autres messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moussa de vive voix, des messagers venus en tant qu'annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument à faire valoir devant Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah est puissant et sage. Qu'est-ce qui est à noter dans ce verset coranique? Des messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. La fonction des prophètes et des messagers de tout temps, de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur un point de vue logique, Nous pouvons facilement concevoir que l'envoi des messagers et des prophètes est nécessaire pour le bonheur des êtres humains. Et ceci peut s'articuler autour de trois grands points. Premièrement, ces messagers ont eu pour rôle de faire connaître Allah à ses créatures. Il nous est impossible de connaître Allah par la simple raison ou par les ressentis et les sentiments. Nous sommes obligés d'avoir recours à la révélation, avoir recours à ces informations qui relèvent du domaine de l'invisible et de l'imperceptible, ilm al-ghayb wa alim al-ghayb, afin de connaître Allah tabaraka wa ta'ala comme lui il est tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, Allah le Très-Haut nous ordonne de l'adorer lui seul. Et de ce fait, il a choisi des envoyés afin que ces derniers nous montrent comment l'adorer. Troisièmement, dès lors que l'on sait que les récompenses et les châtiments sont des conséquences de notre obéissance ou de notre désobéissance, l'envoi des prophètes est alors nécessaire afin qu'ils nous montrent comment lui obéir, comment purifier notre âme, de même qu'il est nécessaire de connaître les voies de l'égarement et de la désobéissance afin de les éviter et de ne pas en subir les conséquences. Après ceci, personne n'aura d'argument à faire valoir devant Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement, comme cité dans le verset précédemment. Le dernier des prophètes est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim est l'arrière-petit-fils de Qusay, Qusay ibn Kilab, qui était un chef de la Mecque. Qusay ibn Kilab est lui-même un descendant de Quraysh. Quraysh est un descendant de Ismaïl. Ismaïl, comme vous le savez, le prophète d'Allah et le fils d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète est un arabe arabisé. Pas un arabe de souche. C'est un arabe arabisé dans le sens où Ibrahim ou Ismaïl n'étaient pas des arabes. Mais Ismaïl s'est marié avec une femme arabe, d'une tribu arabe. Et sa descendance a vécu parmi les arabes. Ils ont appris la langue arabe, ils ont vécu comme les arabes, et toute cette descendance s'appelle les arabes al-Mustaraba, les arabes arabisés. Et le prophète en est issu, sallallahu alayhi wa sallam. Il fut envoyé à l'ensemble des êtres humains, quelle que soit leur race, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur contrée, quelle que soit leur époque dans laquelle ils vécurent. Il fut envoyé pour les blancs, pour les noirs, pour les Arabes, pour les Asiatiques, pour les Indo-Pakistanais, pour toutes les races. Chaque prophète est venu vers son peuple dans un lieu donné, à une époque donnée, vers un peuple précis. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui le démarque de tous les autres prophètes, est venu pour l'ensemble des gens. Ila yawmil qiyamah, jusqu'au jour du jugement. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 34, verset 28. Et ceci aussi est appuyé par le hadith de Jabir ibn Abdullah rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite ces cinq choses par lesquelles il se caractérise et par lesquelles il se différencie des autres prophètes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Cinq choses m'ont été données que nul prophète avant moi n'a reçu. Parmi ces cinq choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال وكان النبي يبعث الى قومه خاصه واني بعثت الى الناس عامه. Chaque prophète est venu exclusivement pour son peuple, alors que moi j'ai été envoyé pour l'ensemble des gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le sens de l'attestation? Quel est le sens de ashhadu anna muhammadan rasulullah? Cela signifie qu'il faut croire de manière certaine par le cœur et proférer ceci par la langue que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Voilà ce que signifie « ashhadu ». « Al-i'tiqadu al-jazim fil-qalbi والإقرار على اللسان. Croyance du cœur, dénuée de tout doute, une croyance pleine, qui n'est pas entachée par le doute ou la suspicion. Et attester ceci de la langue. الإقرار باللسان. Cette attestation implique plusieurs choses obligatoires auxquelles chaque musulman doit se conformer. Premièrement, lorsque nous témoignons que Mohammed est l'envoyé d'Allah, cela signifie qu'il faut croire qu'il a été envoyé à l'ensemble des gens, comme nous l'avons signalé et cité. Il a été envoyé aux hommes et aux djinns jusqu'au jour du jugement. Pour la raison simple, c'est qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Nous avons déjà cité à cet effet le verset coranique et le hadith qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ce message universel. Il n'a pas été envoyé seulement aux Arabes ou alors aux habitants de la péninsule arabique ou alors aux gens de son époque, au 7e siècle de l'ère chrétienne, mais il a un message universel pour l'ensemble des gens. Et d'ailleurs, ce qui nous prouve aussi ceci dans les faits, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours combattu le tribalisme, l'esprit tribal. Il a toujours combattu le sectarisme basé sur des intérêts personnels ou raciaux. L'islam fédère les gens, rassemble les gens autour de principes universels, comme la foi en Allah, la foi aux anges, la foi aux messagers. L'islam fédère les gens autour du bon comportement, des bonnes valeurs, des bonnes mœurs. Ce sont des choses qui sont intangibles et immuables à travers les époques. La croyance de Adam alayhi salam est la même croyance que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les bonnes mœurs et les bonnes valeurs et la bonne moralité est la même depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam fédère les gens autour de ceci, autour de ces principes-là. Au-delà des races, au-delà du statut social, au-delà de la richesse, au-delà de toutes ces considérations qui n'ont que très peu de valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la alwanikum. Wa innama yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas votre couleur de peau ou votre apparence, mais Allah regarde ce que vous avez dans le cœur et regarde vos actes. Deuxième implication, c'est de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes et le meilleur des messagers. Sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète Mohammed est considéré, selon l'avis unanime des savants, comme le meilleur des prophètes, donc à plus forte raison comme la meilleure des créatures. Le Coran nous parle de ces différents degrés qu'il y a entre les prophètes. Allah dit tabaraka wa ta'ala, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, la sourate numéro 2, le verset 253. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en degré. De même, nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bénéficie d'un statut spécial qui a été stipulé dans le Coran à de nombreuses reprises. Je me contenterai de citer un seul verset par souci de concision. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Sourate 17, verset 79. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour les prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Al-Maqam al-Mahmoud. Qu'est-ce que le Maqam al-Mahmoud? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura lui seul l'autorisation d'intercéder le jour du jugement afin de hâter le jugement. C'est ce qu'on appelle al-shafa'atul uzma. Lorsque les gens seront dans l'attente, les gens seront noyés dans leur sueur par rapport aux péchés et aux désobéissances qu'ils auront fait dans cette ville ici-bas. Et ils demanderont au prophète, intercède auprès d'Allah qu'il acte le jugement. Alors ils iront voir Nour, alayhi salam. Nour s'excusera. Il dira, j'ai failli à ma mission, allez voir Ibrahim. Ils iront voir Ibrahim. Et Ibrahim s'excusera. Il dira, je n'ai que mon propre cas à m'occuper. Allez voir Moussa. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils désigneront le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, lorsqu'on lui demandera cette faveur, ou d'intercéder auprès d'Allah pour que le jugement soit hâté, le prophète dira, ana laha, ana laha. Celle-ci est pour moi, celle-ci est pour moi. Cette intercession est la mienne, cette intercession est la mienne. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigera sous le trône d'Allah, et il se prosternera longuement. Et louera Allah par des louanges qu'Allah lui aura appris à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'Allah lui dira, ya Muhammad, irfa' ra'sak, washfa' tushaffa. Oh Muhammad, lève ta tête, intercède, elle te sera accordée, wasal tu'ta. Et demande, il te sera donné. À ce moment-là, le prophète demandera que le jugement vienne. La grande intercession est exclusive au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci dénote que le prophète sera dans une position de gloire. Al-Maqamu, Al-Mahmoud. Aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après la version de Abi Huraira, Ana sayyidu waladi Adam, yawm al-qiyama. Je suis le meilleur des fils d'Adam, le jour du jugement. Wa awwalu man yunshaqu anhu al-qabr. Et le premier qui sortira de la tombe. Wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa. Je serai le premier à intercéder et je serai le premier à qui l'intercession sera acceptée. Dans une autre version du hadith, dans la version de Sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Je suis le meilleur des fils d'Adam sans prétention. Sallallahu alayhi wa sallam. J'ouvre une parenthèse. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, sur le numéro 6916, d'après Abi Sa'id al-Khudri. La tukhayyiru bayna al-anbiya. Ne faites pas de différence entre les prophètes. Comment concilier cette parole du prophète avec ce que nous venons de dire auparavant? Nous avons prouvé que les prophètes ne sont pas au même degré. Et là, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas de différence entre les prophètes. Les savants ont émis plusieurs explications. Mais l'explication la plus plausible est celle de l'imam al-Khattabi, rahimallah tabaraka wa ta'ala, qui a dit, cette parole interdit de préférer certains prophètes par rapport à d'autres dans leur qualité et statut de prophète. C'est-à-dire que tous ces prophètes ont cette chose en commun, la prophétie. Un socle commun qu'ils ont et sur lequel ils se rassemblent. Puis il dit, en dehors de ceci, tous les prophètes ne sont pas au même niveau. Dès lors qu'on a attesté que ce sont tous des prophètes, il vient s'ajouter après ce qu'on appelle al-fada'il, des mérites, qui peuvent varier d'un prophète à un autre. Il dit, tous les prophètes ne sont pas au même niveau et certains ont plus de mérites que d'autres dans les miracles, dans le livre qu'ils ont reçu, dans le nombre de suiveurs, dans les circonstances relatives au jour du jugement, dans leur relation avec leur Seigneur. Ibrahim a été appelé l'ami privilégié d'Allah, Khalilullah. Moussa a été appelé Kalimullah, celui à qui Allah a parlé de vive voix, etc. Troisième implication. Il faut croire qu'il est le dernier des prophètes et qu'aucun prophète ne viendra après lui. Il nous est obligatoire de croire qu'il est le dernier et le sceau des prophètes et qu'aucun prophète ne viendra après lui, auquel nous devrons obéissance. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Sourate 33, verset 40. Allah dit dans le sens des versets. Muhammad n'a jamais été le père de l'un d'entre vous, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et Allah est omniscient. Toute personne qui prétendra après lui à la prophétie sera considérée comme un grand menteur. Kadhab Dajjal. Beaucoup de gens ont prétendu être prophète après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Coran stipule clairement qu'il est le sceau des prophètes et il vient sceller la chaîne de prophétie. Quatrièmement, témoigner que Mohammed est l'envoyé d'Allah signifie qu'il faut faire prévaloir l'amour qu'on lui porte sur l'amour de notre propre personne ou l'amour de nos proches. J'attire votre attention sur ce point-là. L'amour envers le prophète doit être un amour religieux, un amour sur sa qualité de prophète, un amour du fait que c'est un homme vertueux, un amour car il a transmis le message divin et a patienté sur tous les préjudices encourus. L'amour naturel n'est d'aucune utilité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, car ce dernier n'est pas basé sur l'amour d'Allah. L'amour naturel, c'est l'amour de l'enfant vers sa mère, ou de la mère vers son enfant, ou des parents vers les enfants, ou des frères dans une fratrie. C'est un amour filial. Cet amour-là n'est pas blâmable, bien au contraire. Mais il n'est d'aucune utilité pour la personne devant Allah tabaraka wa ta'ala. L'amour qu'Allah nous demande, c'est l'amour religieux. Al-ukhuwatu fillah wa al-hubbu fillah. Et lorsque nous aimons le prophète, nous n'aimons pas le prophète parce que c'est un arabe, comme nous, ou que c'est un Bani Hashim, comme moi. Ces considérations n'ont aucune valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour preuve, Abu Lahab, l'oncle du prophète, s'éternisera en enfer, comme vous le savez. C'est un Bani Hashim. Abu Talib, l'oncle du prophète, s'éternisera en enfer. Et pourtant, c'est un des proches du prophète et c'est lui qui l'a éduqué. Quel est l'amour alors qu'Allah nous demande? C'est l'amour religieux. Al-hubbu shar'i. L'amour religieux. L'amour qui est basé sur l'amour d'Allah. On aime le prophète car Allah tabaraka wa ta'ala a aimé cet homme. On aime le prophète car Allah tabaraka wa ta'ala l'a choisi pour être celui qui transmet son message. On aime cet homme car c'est celui qui nous a montré la voie pour gagner le paradis et pour se préserver du feu de l'enfer. Allah dit tabaraka wa ta'ala. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة 9 verset 24. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans son sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers et désobéissants. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a dit en commentaire de ce verset. Ce verset constitue la plus grande preuve sur l'obligation d'aimer Allah et son messager et de donner la prééminence de cet amour sur l'amour de n'importe quelle autre chose. Ce verset constitue aussi une preuve sur la menace terrible qui pèse sur celui qui fait prévaloir l'amour d'une de ces choses citées dans le verset, sur l'amour d'Allah le Très-Haut, son messager et la lutte dans son sentier. Fin de citation. De même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, sur le numéro 6916 d'après Anas ibn Malik. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Fadhakara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-usul wal-furu' wal-hawashi. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, personne d'entre vous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son propre père, son propre enfant et l'ensemble des gens. Nous voyons à travers cette parole du prophète qu'il n'a excepté personne. Il a cité les ascendants, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Il a cité la descendance, le fils, l'arrière-petit-fils, la fille, l'arrière-petite-fille. Et il a cité le hawashi. Qui sont le hawashi? Sont en premier lieu les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les neveux et le reste des gens. Si proches soient-ils, on ne doit pas les aimer plus que l'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, notre foi n'est pas complète. Et ceci, les compagnons l'avaient bien compris. Et je vais vous citer quelques exemples de compagnons qui avait compris ce grand principe d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à le faire prévaloir sur sa propre personne. Abdullah ibn Hisham rapporte dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que Omar ibn al-Khattab tenait la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous deux en train de marcher, jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab dise « Ya Rasulallah, tu m'es plus cher à mes yeux que n'importe qui, sauf de ma propre personne. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris. Il lui a dit « Là, ya Omar, par celui qui tient mon âme entre ses mains, jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de toi que ta propre personne. » Alors Omar s'est corrigé, tout de suite. Il a dit « Ya Rasulallah, El-En, maintenant, tu es plus aimé auprès de moi que ma propre personne. » Et le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme pour approuver cette phrase et cette parole, « El-En, ya Omar. » C'est maintenant, Omar. Que signifie « c'est maintenant, Omar » Tu as connu la vérité et tu as dit ce qui t'était obligatoire de dire, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus aimé auprès de moi que ma propre personne. C'est par ce biais-là que l'on doit passer pour parfaire notre foi. Aussi, Amr ibn al-As, radiallahu tabarak wa ta'ala, écoutez, regardez un petit peu le comportement des compagnons vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par l'amour qu'il lui portait. Il a dit, personne n'est plus aimé et avait plus de valeur à mes yeux que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jamais je ne pus lever les yeux vers lui de par la considération que je lui portais. Et si on m'avait demandé de le décrire, j'en aurais été incapable du fait que je ne posais jamais mes yeux sur lui. Ce hadith, vous pouvez le trouver dans le Sahih de l'imam Muslim sous le numéro 121. Le chef des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu tabarak wa ta'ala anhu, fut questionné. Comment était votre amour vis-à-vis de l'envoyé d'Allah? Il répondit, il était par Allah plus aimé auprès de nous que nos propres biens, nos propres enfants, nos propres pères, nos propres mères, plus aimé que l'eau fraîche en état de soif intense. Lorsque la mort se présenta à Bilal, radiallahu tabarak wa ta'ala anhu, sa femme cria et dit, quelle tristesse! Car elle savait qu'elle allait perdre son mari. Et Bilal de répondre tout de suite, quelle joie! Demain je rencontrerai les bien-aimés, Mohammed et les siens. Celui qui aime sincèrement l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'un amour religieux, comme le fut l'amour des compagnons envers l'envoyé, suivra ses traces et cheminera sur cette guidée sans éprouver la moindre difficulté et la moindre pénibilité. Les compagnons furent véridiques et sincères dans l'amour qu'ils portaient au prophète de l'islam, ce qui les poussa à se surpasser et à dépenser de leur personne, de leur temps et de leurs biens pour élever la parole d'Allah le Très-Haut, propager sa religion, propager la tradition du prophète et la défendre contre toute altération et contre tout rajout. Cinquième implication. Témoigner que Mohammed est l'envoyé d'Allah implique l'obéissance qu'on doit lui donner et éviter tout ce qu'il nous a interdit. L'ordre d'obéir au prophète a été stipulé dans le Coran de manière claire et évidente dans pas moins de 10 endroits différents. Je ne vous citerai qu'un seul verset. Allah dit tabaraka wa ta'ala « Wa ati'u Allah wa rasoola la'allakum turhamoun » Sourate numéro 3, verset 132. Allah dit dans le sens des versets « Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. » L'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. On ne doit nullement faire la différence entre l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète dans les lois religieuses, dans le licite et l'illicite, dans le convenable et le blâmable. Dans les lois religieuses, il est interdit de faire la différence entre la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Celui qui a obéi à l'envoyé a certes obéi à Allah. Il n'y a aucune différence à faire. La différence qu'on fera entre la parole d'Allah et la parole du prophète, c'est dans l'éloquence, dans la teneur. La parole d'Allah est éloquente et est inimitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 1835, من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله. من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. Celui qui m'a obéi a certes obéi à Allah. Et celui qui m'a désobéi a certes désobéi à Allah. Et celui qui obéit à mon chef, que j'ai désigné, m'a certes obéi. Et celui qui désobéit à mon chef, m'a certes désobéi. Un hadith, on ne peut plus clair. L'obéissance n'est pas juste un slogan que l'on brandit ou une parole que l'on dit par la langue. Mais l'obéissance, c'est le suivi et la conformité avec l'ordre de l'envoyé. C'est l'attachement à sa voix dans tous les aspects de la vie. C'est la soumission complète et absolue à tout ce qu'a rapporté l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la part de son Seigneur. C'est le suivi et non l'innovation religieuse. Sixièmement, parmi les implications de ce témoignage et de cette attestation, c'est le fait de le déclarer véridique dans toutes les informations qu'il nous a rapportées. Nous saddiquhu fil akhbar. Il est obligatoire de déclarer véridique toutes les informations qu'il nous a rapportées, notamment les informations qui relèvent du monde de l'invisible et de l'imperceptible, ce qu'on appelle l'alim al-ghaib, le monde de l'invisible et de l'imperceptible. Car ces informations ne peuvent être connues si ce n'est à travers la révélation immunisée contre l'erreur. À cet effet, Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation inspirée. Sourate 53, versets 3 et 4. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la transmission du message, dans les règles religieuses, dans les informations concernant ce qui s'est passé dans les générations précédentes, dans ce qui va se passer dans les générations postérieures, toutes ces choses que l'être humain ne peut pas cerner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est immunisé contre l'erreur. Il ne fait aucune erreur dans ceci. Cette immunité, elle lui a été octroyée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah appuie cet état de fait en disant wa ma yantiqu 'anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de la passion ou de la folie ou pour assouvir ses intérêts personnels. Mais tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation inspirée par Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était connu avant la révélation pour être quelqu'un de sincère et véridique. Jusqu'à ce que les gens de sa tribu l'appelaient as-sadiq. As-sadiq ul-amin. Le véridique digne de confiance, intègre. Donc dès lors que nous avons su que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est véridique, et que ceci a été confirmé dans le Coran, et qu'il est immunisé contre l'erreur, alors tout ce qui sort de sa bouche comme information relative à la révélation, nous devons y croire de manière incisive et tranchante. Nous devons y croire de manière incisive et tranchante. Septièmement, nous devons adorer Allah tabaraka wa ta'ala que par le biais de sa législation. Cela signifie que nous devons adorer Allah tabaraka wa ta'ala que par la sunna qui vient expliquer le Coran. La sunna a pour fonction première de détailler et de mettre en valeur les principes coraniques. Il est impossible de comprendre le Coran sans la sunna. Sinon, comment aurions-nous su la manière de prier? Comment avons-nous su quels sont les biens assujettis à la zakat? Comment avons-nous su les taux pour chaque bien assujetti à la zakat, les taux par lesquels on est imposable? Comment avons-nous su les détails des rites du pèlerinage? Tout ceci se trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran vient donner des grandes lignes et la sunna vient détailler. Arbad ibn Sariya, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, Arbad ibn Sariya, un grand compagnon, a dit: le prophète nous a fait une exhortation qui ressemblait à une exhortation d'adieu, à valeur testamentaire, comme une personne qui donnerait ses dernières paroles avant sa mort. Une exhortation qui a fait trembler les cœurs et qui a fait couler les yeux de larmes. Arbad a dit: Ya Rasulallah, donne-nous parole, une exhortation forte. Et le prophète a répondu, usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Je vous enjoins la piété envers Allah tabarak wa ta'ala. Wa sam'i wa ta'a. L'écoute et l'obéissance au gouverneur. Puis le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Celui qui vivra verra de nombreuses dissensions, de nombreuses divergences entre les musulmans. Fa alaykum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin min ba'di. Et la sunna de mes califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Al-Hassan ibn Ali. Addu 'alayha bin nawajid. Mordez-y à pleines dents, c'est-à-dire cramponnez-y-vous fermement. Ne lâchez pas, la bride. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Toute chose nouvelle dans la religion est considérée comme une innovation religieuse et toute innovation religieuse mène à l'égarement. Huitième chose. Nous est obligatoire de le prendre comme modèle et le suivre. Prendre le prophète comme modèle et le suivre est une obligation religieuse. C'est le suivre dans ses ordres et ses interdits, dans son comportement, dans sa moralité, dans ses adorations, dans ses relations avec les gens. Il constitue un modèle, sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les aspects. Car c'est un homme qu'Allah tabarak wa ta'ala a vanté. Je vous ai dit que les prophètes sont des hommes avant tout. Et ceci a pour implication que nous pouvons nous identifier à eux. Dans la manière de prier, dans la manière de se laver du bain rituel, dans la manière de commercer, dans la manière de se comporter avec les gens, il reste des modèles, car ce sont des hommes avant tout. Si un envoyé était un ange ou un djinn, comment aurions-nous pu le prendre comme modèle ? Allah dit tabaraka wa ta'ala, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sourate 33, le verset 21. Allah dit dans le sens des versets, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Neuvième chose, l'obligation de le respecter et de l'honorer. Cette obligation de le respecter et de l'honorer ne doit pas nous conduire à l'adorer ou à lui conférer des attributs divins, comme le font certaines personnes. Nous devons le considérer comme un homme qui a reçu la révélation. C'est un homme, mais il n'est pas comme n'importe quel homme. Ceci a été spécifié dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahih al-Bukhari 3445, où le prophète a dit « La tatoruni kama atarati nasara Isa ibn Maryam, wa innama ana abd, faqulu abdullahi wa rasuluh. » Ne me vantez pas outre mesure, jusqu'à mentir, comme l'ont fait les chrétiens à l'encontre de Isa ibn Maryam. Mais je ne suis qu'un serviteur. Tenez-vous-en à dire serviteur d'Allah et messager d'Allah. Qu'est-ce que l'on retient de cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? C'est qu'il a cité ces deux natures. C'est que c'est un homme, un abd, un serviteur, et par définition un serviteur ne peut pas être adoré. Le serviteur adore son maître. Donc, il ne peut pas être adoré. Mais en même temps, c'est l'envoyé d'Allah. Donc, il a cette mise, cette distinction que les autres hommes n'ont pas. Certaines personnes, dans la nation de l'islam, confèrent et attribuent au prophète des attributs divins. Ils prétendent qu'il connaît l'invisible. Ils prétendent que le prophète, après sa mort, a le pouvoir de donner la victoire à qui il veut. Il a le pouvoir de dissiper les angoisses. Il a le pouvoir de dissiper la tristesse. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de faire rentrer au paradis qui il veut et faire rentrer en enfer qui il veut. Autant d'attributs qui sont spécifiques à Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais seulement, on les attribue au prophète par ignorance. Le prophète n'a rien de tout ça, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lui-même ne connaissait pas l'invisible. قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Dis, ô Mohammed, si je connaissais l'invisible, alors j'aurais multiplié le bien et aucun mal ne m'aurait touché. Mais on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
a subi des préjudices. Et c'est ce que nous rappelle Allah tabaraka wa ta'ala, pour nous montrer que le prophète n'a pas ce don de connaître l'invisible, car ceci est une qualité exclusive à Allah tabaraka wa ta'ala. La ya'lamul ghaiba illallah. Voilà où mène l'exagération dans le fait de vanter le prophète et vanter ses mérites. Si on ne connaît pas les limites, alors on va faire exactement comme on fait les chrétiens vis-à-vis de Isa ben Maryam, qui l'ont divinisé, qui ont dit qu'il était le fils d'Allah, ou le troisième de trois. La taqulu thalatha, ne dites pas trois, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran en reprenant les chrétiens. À l'opposé, nous trouvons des gens qui sont durs vis-à-vis du prophète, jusqu'à dire que c'est un homme comme les autres. Quelle différence entre moi et lui? Ceci est un autre extrême. Al-roulatu ou al-jufah. Alors que le musulman se trouve dans la juste mesure. On n'exagère pas en vantant le prophète et en lui attribuant des qualités qu'il ne possède pas, mais on le qualifie par ce par quoi Allah l'a qualifié dans le Coran, et en même temps on lui donne la considération et le respect qui lui est dû en tant que prophète et messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dernière implication, l'obligation de le prendre comme juge pour régler les différends et les divergences. De son vivant, les compagnons avaient pour habitude de revenir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prendre comme juge pour qu'il règle les différends et les querelles entre eux. Et le prophète jugeait avec le livre et la sunna. Après la mort du prophète, bien sûr, Allah nous demande de revenir à sa sunna, comme il nous demande de revenir au livre, al-kitab wa sunna. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dit à cet effet, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sourate 4, verset 65. Allah dit dans le sens du verset, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse et nulle gêne pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Nous avons ici trois étapes. Trois étapes nécessaires. Premièrement, lors d'un conflit, d'une querelle, d'un litige, nous devons revenir au livre et à la sunna. C'est la première chose. حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ التَّحْكِيمِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. La deuxième chose, c'est que on ne doit pas trouver en nous une gêne sur la décision ou sur la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sera prise en compte, même si elle était à ton encontre. On ne doit trouver aucune gêne en nous, mais on doit être ouvert, la poitrine ouverte et le cœur apaisé. Et enfin, troisième chose, c'est l'application. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. On se doit de se conformer à ce qu'implique cette sentence comme acte ou comme parole. S'il y a du tort à réparer, s'il y a des excuses à faire, on se doit de s'y conformer convenablement. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.